VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. La commission de l'Union africaine a exprimé sa perplexité face à l'inclusion injuste du Tchad à la liste des pays visés par le décret migratoire du président Donald Trump interdisant aux ressortissants tchadiens l'accès au territoire américain. L'organe exécutif de l'Union africaine partage les mêmes préoccupations que les États-Unis concernant la menace terroriste, mais est d'avis que la coopération et un engagement significatif sont vitaux à l'élaboration d'une réponse commune à ce défi mondial ô combien exigeant, a-t-il indiqué dans un communiqué daté de mardi et envoyé aujourd'hui à la presse. Et donc le dernier décret migratoire du président Donald Trump était à l'ordre du jour d'une rencontre d'urgence hier à N'Djamena entre les autorités tchadiennes et l'ambassadeur des États-Unis, Madame Jita Passy. Cette mesure inclut le Tchad parmi les pays dont les ressortissants sont interdits d'accès au territoire américain. Timothée Donangmaye a joint à N'Djamena Abdoulaye Sabré Fadoul, le ministre secrétaire général du gouvernement, assurant l'intérim des affaires étrangères.
Madame l'ambassadrice a essayé de nous expliquer les manquements qui auraient conduit Washington à placer le Tchad sur cette liste. Et ces manquements ont un lien avec soit une insuffisance dans les informations qui ont été communiquées à la demande des services de sécurité américains, soit de retard dans la communication d'un certain nombre d'informations. En somme, c'est une addition de petites choses qui, mis bout à bout, ont justifié cette décision pour les Américains. Pour les Tchadiens, on reste toujours dans l'incompréhension. Il faut comprendre une chose. Par année, il y a peut-être un millier de Tchadiens qui font des demandes de visa. Donc, il y a une décision souveraine américaine pour imposer une restriction, c'est une chose. Mais ce qui a choqué, ce sont les motifs qui ont été invoqués pour un pays reconnu par ailleurs pour son engagement, pour ses efforts dans la lutte contre le terrorisme. D'abord, c'est l'image de notre pays qui a été atteinte. Ce sont des motifs vraiment infamants qui ont été mis en avant pour justifier cette décision. Et c'est d'abord en cela que les Tchadiens ont été choqués. De surcroît, lorsque cette décision vient d'un pays qui a été toujours considéré comme un partenaire historique de notre pays.
De votre point de vue, vous êtes bien acquitté de votre part de collaboration dans la lutte contre le terrorisme.
Absolument. Je pense que nous sommes un exemple, pas seulement ici en Afrique, à travers le monde. Notre intransigeance politique contre le terrorisme est quelque chose qui est reconnu par tout le monde, y compris par le président Trump. On aurait pu, je pense, éviter cette décision si le gouvernement tchadien avait été saisi d'un certain nombre d'informations à compléter ou bien à fournir. Mais là, malheureusement, le mal, il est fait. Nous mettre sur la même liste que voilà un certain nombre de pays pour ce que nous faisons. D'ailleurs, même avec les États-Unis, avec les grandes puissances, avec nos voisins, c'est ça qui a choqué les Tchadiens.
Qu'allez-vous faire à présent?
Nous avons convenu avec Madame l'ambassadrice d'essayer de conjuguer nos efforts pour lever les réserves qui ont conduit à la prise de cette décision-là. Nous avons sincèrement regretté à la fois la manière et le contenu de cette décision, mais ça ne nous empêchera pas de continuer la collaboration afin de répartir cette nouvelle base.
Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre tchadien, secrétaire général du gouvernement. Les États-Unis ont appelé mardi le Soudan à mener une enquête minutieuse et transparente sur les affrontements entre forces de sécurité déplacées dans un camp du Darfour, dans l'ouest du pays, qui ont causé la mort de plusieurs personnes la semaine dernière. Les États-Unis ont fait état de 5 morts et Washington est très préoccupé par l'usage excessif de la force par les forces gouvernementales, a souligné l'ambassade américaine dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Deux gendarmes burkinabés ont été tués dans l'attaque mardi d'un convoi de ravitaillement de carburant d'une mine d'or à Inata dans le nord du Burkina Faso, frontalier du Mali. Le convoi escorté par des éléments de la gendarmerie a été attaqué dans la province de Soum sur l'axe Tongamael-Inata après que le véhicule de tête a sauté sur une mine frontalière du Mali et du Niger. Le nord du Burkina est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015, mais c'est la troisième attaque d'un convoi à l'engin explosif improvisé depuis mi-août. Samedi, une attaque similaire contre une patrouille du groupement des forces antiterroristes avait fait 7 blessés, dont 2 grièvement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Assemblée nationale camerounaise a dénoncé mardi une tentative de partition du Cameroun au moment où les séparatistes anglophones envisagent de proclamer l'indépendance des zones anglophones du pays le 1er octobre. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont par ailleurs lancé un appel au dialogue, à la retenue et au bon sens. Depuis novembre 2016, la minorité anglophone, environ 20% des 22 millions de Camerounais, proteste contre ce qu'elle appelle sa marginalisation. Certains anglophones exigent le retour au fédéralisme, tandis qu'une minorité réclame la partition du Cameroun, deux scénarios que refuse Yaoundé. L'opposant congolais Moïse Katumbi a menacé mardi de faire appel à la rue si le président Joseph Kabila ne quitte pas le pouvoir et n'organise pas des élections d'ici au 31 décembre en République démocratique du Congo. Ex-allié de poids de M. Kabila, ex-gouverneur du Katanga, richissime homme d'affaires passé à l'opposition en septembre 2015, M. Katumbi vit entre la Belgique et la France après avoir été condamné à 3 ans de prison dans une affaire immobilière qualifiée par les évêques catholiques de mascarade dans un rapport confidentiel. M. Katumbi a répété qu'il préparait son retour au pays. Des députés ougandais en sont venus aux mains hier au Parlement. La cause, un amendement constitutionnel voulu par le parti au pouvoir pour supprimer la limitation d'âge de candidats au poste de président. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Les tensions se sont transformées en violence lorsque le chef du groupe parlementaire de l'opposition a accusé un ministre de l'avoir menacé avec un pistolet au Parlement. Il s'en est suivi une empoignade, des coups de poing, des injures de toutes sortes et des dossiers ont volé en éclats. Sur le campus de l'université Makerere, des étudiants ont bravé l'interdiction de manifester et ont porté des bandeaux rouges en signe de protestation. Certains avaient même érigé des barricades, mais les forces de l'ordre les ont dispersées avec des tirs de gaz lacrymogène. Selon le porte-parole de la police, Emiliane Kayima, 18 personnes, dont le chef de l'opposition, Kizza Besigye, ont été arrêtées. La constitution actuelle impose aux candidats à la présidentielle d'être âgés de 35 à 75 ans. Une modification permettrait à Yoweri Museveni, 73 ans, de se représenter pour un 6e mandat en 2021. À cause de cette bagarre au sein de l'hémicycle, cet amendement constitutionnel n'a pas été discuté.
À Washington, il est 7 minutes.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, les électeurs de l'Alabama ont désigné mardi l'ultra-conservateur Roy Moore comme candidat républicain à un poste vacant de sénateur à Washington, infligeant ainsi un revers à Donald Trump et aux dirigeants du parti qui privilégiaient son adversaire Luther Strange. Roy Moore, âgé de 70 ans, a bénéficié du soutien d'un certain nombre de personnalités de la droite hostile et aux élites politiques à Washington, dont l'ancien stratège de Donald Trump, Steve Bannon. Cet ultra-conservateur sera en décembre le favori face au démocrate Doug Jones pour occuper le siège de sénateur laissé vacant par Jeff Sessions après sa nomination en février au poste de ministre de la Justice. Les talibans ont revendiqué mercredi les tirs de roquettes sur l'aéroport de Kaboul, précisant sur Twitter avoir visé l'avion du secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, arrivé peu auparavant dans la capitale afghane. Au moins 6 roquettes ont atterri sur la section militaire de l'aéroport international sans interrompre le trafic aérien, selon le ministère afghan de l'Intérieur. Et puis le président américain Donald Trump a annoncé hier qu'il se rendrait la semaine prochaine à Porto Rico pour couper court aux critiques sur la lenteur de l'aide apportée par son administration à ce territoire américain dévasté par l'ouragan Maria. Le président américain était notamment accusé de considérer les 3,4 millions d'habitants de l'île comme des citoyens de seconde zone, alors que les Portoricains ont la nationalité américaine, même s'ils n'ont pas le droit de vote. Selon ses détracteurs, l'aide fédérale avait été plus rapide pour le Texas et la Floride, touchés respectivement par les ouragans Harvey et Irma fin août et début septembre. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.